France Inter.
Écrivain et ancien rédacteur pour le journal Voici, Philippe Jaénada, dans son style toujours drôlatique et délicieux, s'intéresse de nouveau à un fait divers dans sa nouvelle enquête romanesque « La désinvolture est une bien belle chose » parue chez Mialet Barreau. À Paris dans les années 50, le café Chez Moineau est le refuge d'une bande d'adolescents marginaux et désabusés, parmi lesquels se trouve Jacqueline Arispe, dite Kaki, personnage ayant également inspiré Modiano pour son livre Dans le café de la jeunesse perdue. Le 28 novembre 1953, elle se défenestre d'une chambre du troisième étage d'un hôtel. Elle a 20 ans et rien ne semble expliquer ce geste. Mais chaque être a ses tragédies intérieures. L'inspecteur Philippe Jaénada longe les côtes françaises en voiture et les bistrots pendant des semaines en réfléchissant à l'enquête. Il raconte son périple en donnant toujours au lecteur l'impression de recevoir des nouvelles d'un ami. Départ et arrivée Dunkerque, boisson la plus présente, whisky, choses les plus dignes d'intérêt pour l'auteur, l'humanité. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure. J'ai lancé le jingle trop tôt, c'est totalement de ma faute, ce sont les aléas du direct. Et ils ont réagi en cabine et là on le lance pour de vrai. Allez, on y va.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
J'ai levé la main trop tôt. Bonsoir Philippe Jaénada.
Bonsoir Eva, vous avez levé la main trop tôt.
Trop tôt, c'est vrai. Vous me jugez ?
Non, je trouve ça très spontané et je vous pardonne.
Ah, merci. Eh bien écoutez, on commence par une rédemption. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus préoccupé dans votre journée ?
Dans ma journée, aujourd'hui, en ce moment, je cours de tous les côtés avec la sortie du livre, en jacassant sans arrêt. Je me fais l'effet d'une vieille poule folle qui... Et aujourd'hui, j'avais une journée... Oh, oui.
Une vieille poule folle ?
Oui. Mais oui, je cours de tous les côtés.
J'imagine une marionnette du Muppet Show.
Moi qui suis normalement extrêmement casanier, immobile, je pense que la nuit, mon lave-linge a plus d'activité que moi. Et aujourd'hui, j'avais une journée entièrement de repos à la maison, chez moi. J'étais content. Et en fait, à partir du moment où j'ai terminé mon café, on se raconte tout.
Tout. Ouais. Enfin, pas tout.
Non. J'ai terminé mon café à 10h15, je me suis installé à mon bureau, et jusqu'à il y a une demi-heure, je n'ai pas arrêté de répondre à tous les mails que j'avais laissés de côté quand j'étais à faire la poule folle, à envoyer des factures, des trucs, parce que maintenant, depuis quelques années, quand on est écrivain et qu'on fait des rencontres, des choses comme ça. Alors, pas à France Inter, hein, mais on est payé.
Oui, non, pas à France Inter.
Mais du coup, il faut... Alors, moi, je suis contre ça un peu, mais bon.
Le fait de ne pas être payé ?
Non, d'être...
Ah oui ?
D'être payé.
Mais les auteurs ont une vie difficile, quand même.
Oui, mais du coup, ça se retourne... On parle là-dessus, oui. Ça se retourne contre les auteurs. C'est-à-dire que maintenant, si on fait une rencontre dans une médiathèque, dans une librairie, dans un salon du livre, on participe à un débat... On est payé.
Ah
et du
oui.
coup, s'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent dans le milieu littéraire, ça se saurait. Du coup, les librairies, les gens qui organisent des salons du livre, eh ben, pour les premiers romans, les gens pas connus, etc., ils n'ont pas envie de payer. Et donc, avant, quand c'était gratuit, moi, pendant des années, tout le monde se désintéressait un peu de mes livres, et c'est normal, enfin bon, bref. Mais je faisais plein de débats, du coup. Et quand on fait un débat à Nancy ou à Brive... devant 150 personnes, on est content. Et maintenant, il y a une sorte de sélection. Bref.
Bon, là, on commence sur une note amère.
On est parti complètement.
Est-ce que je peux vous changer d'humeur avec un seul mot ?
S'il vous plaît.
Saucisse.
Saucisse.
Alors, c'est une découverte récente pour vous, Philippe Jaénada. C'est qu'il y a évidemment le mot bistrot en première place dans vos livres, mais vous vous êtes rendu compte il y a peu que saucisse et saucisson apparaissaient dans chacun de vos livres.
Non seulement ça, mais même dans ma vie, quelques minutes avant l'antenne, Eva nous étions en train de parler de saucisson.
Oui, mais nous avons eu quelques confidences que j'espère vous n'allez pas révéler.
Non, motus, je suis une carpe. oui, je me suis rendu compte complètement par hasard. Je vais essayer de raconter ça vite fait. C'est un ami qui me dit qu'il travaille dans une radio, Radio Nova, et qui envoie un mail à tous les gens qu'il connaît. Il dit « Ce soir, on fait une soirée spéciale hot dog. Tous ceux qui viendront lire un extrait de livre dans lequel il y a le mot saucisse auront un hot dog gratuit. » Et moi, j'étais en train de travailler, j'étais en train d'écrire mon livre d'avant. Là, je venais d'écrire le mot saucisse. Donc je lui dis « C'est fou, je viens d'écrire saucisse, je vais venir lire ça ce soir, j'arrive. » Et puis je me dis... Je vais voir si j'ai pas un autre passage. Il n'était pas terrible, mon passage avec Saucisse. Et je vais voir si j'ai pas dans un autre livre un autre passage avec Saucisse. Et dans le dossier qui contient tous mes romans depuis 1997, je tape dans la barre de recherche Saucisse. Et là, je vois tac, 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 tous mes livres qui s'affichent les uns après les autres. Et je découvre, sidéré et surtout épouvanté, qu'il y a le mot saucisse dans tous les romans que j'ai écrits depuis 1997, alors que j'ai pas de famille dans la charcuterie, j'ai pas une passion folle pour les saucisses.
Non, rien de freudien dans cette histoire.
J'espère que non, mais le mot saucisse s'est glissé dans absolument tous mes livres.
Alors le mot bistrot aussi.
Oui, ça c'est plus compréhensible.
Oui, et alors, d'ailleurs, vous faites beaucoup de descriptions des gens et des discussions autour de vous dans chacun des bars où vous allez. Est-ce que vous êtes toujours attentif à votre environnement ou est-ce que ça vous arrive d'être plongé en vous-même ?
Non, j'essaie de pas trop me plonger en moi-même.
Ah, pourquoi ?
Si, ça m'arrive quand j'écris, en fait, sans jouer l'artiste ou quoi. Mais en vrai, le seul moment où je suis vraiment plongé en moi-même, c'est quand j'écris. Et d'ailleurs, je passe 95% de mon temps à écrire ou lire. Lire, on peut aussi se plonger dans soi-même. Et je passe une heure et demie par jour au bistrot, qui est ma seule... Et l'avantage extraordinaire et fabuleux des bistrots, c'est qu'on peut... C'est le seul endroit, je pense, hein, où on peut se mettre tout près d'un groupe de personnes, les regarder, écouter tout ce qu'ils disent, sans que ça leur vienne à l'esprit de dire « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Allez-vous-en. » J'ai l'impression que c'est comme si je descendais d'un étage chez moi, j'allais frapper à la porte de mes voisins d'en dessous, et je disais « N'arrêtez pas de manger, je m'installe, je vous écoute, je vous regarde. » Donc non, je ne suis surtout pas plongé en moi-même dans les bistrots, je regarde et j'écoute ce qu'il y a autour de moi, qui est souvent intéressant ou rigolo ou émouvant.
Est-ce que vous aimez profondément l'humanité ?
Alors, c'est une question directe.
Ah oui, mais je suis quelqu'un de direct, on n'a pas le temps, on va mourir.
Ouais, alors allons-y. Bah oui, évidemment, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je me fous complètement des arbres, des montagnes, des belettes, de tout. Il y a une seule chose qui m'intéresse, ce sont les êtres humains et ce qu'il y a à l'intérieur. Et parfois, on peut s'intéresser de très près à quelqu'un et vouloir lui poser des questions, etc. Parfois, il suffit de voir passer quelqu'un. On est assis à la terrasse d'un bar, on voit passer quelqu'un, on regarde ses yeux, son attitude, et on peut imaginer, pas deviner, mais imaginer des choses. Donc, il y a que ça qui m'intéresse. Avec les chevaux. Si, j'aime les chevaux, j'ai menti. J'aime les courses de chevaux.
Et vous êtes turfiste ?
Je suis turfiste invétéré et depuis longtemps.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Philippe Jaénada, vos 7 premiers romans s'appuyaient sur votre vie personnelle, puis vous vous êtes tourné vers le fait divers grâce non pas à un roman d'Emmanuel Carrère, mais simplement à son titre « D'autres vies que la mienne ». Qu'est-ce qui a changé en vous ?
Ma vie. En fait, donc oui, mes 7 premiers romans suivent un peu l'évolution de ma vie, c'est-à-dire que le premier qui s'appelait « Le chameau sauvage », c'est un jeune homme un peu naïf, un peu sympathique et malchanceux, qui cherche l'amour à Paris. Après la publication du premier, j'ai rencontré une fille complètement dingue, dont je suis tombé raide amoureux, qui est ma femme. Et donc mon deuxième livre, c'est l'histoire d'un jeune homme un peu naïf et malchanceux, qui tombe complètement dingue d'une fille dont il est raide amoureux et qui est elle-même dingue, etc. Ensuite, l'enfer de la vie conjugale, ensuite un enfant... Et puis, à partir de 2010 à peu près, notre fils avait 10 ou 11 ans, préadolescent, et notre vie est devenue d'une monotonie, d'une platitude délicieuse pour moi. J'adore ça, je suis un homme de routine, mais complètement nul pour la littérature. Donc je me suis dit, je suis foutu parce que j'aime pas écrire, écrire de la fiction. Je me suis dit, je suis foutu. Et puis, d'autres vies que la mienne, Carrère, je dis, tiens, mais c'est vrai, il y a d'autres gens que moi sur Terre. Donc, je vais raconter leur vie. Et le premier de ces livres, qui s'appelle Sulac, c'est sur Bruno Sulac, qui était un gangster extrêmement sympathique, dont je me sentais très proche intérieurement. J'ai l'impression que c'est un peu moi, Bruno Sulac. Sauf que c'est moi, en version pleine d'audace, de courage, d'aventure et tout ça. Donc, je me suis dit, c'est pratique, je vais raconter sa vie, puisqu'il a fait tout ce que je n'ai pas fait.
Tu vas pas me dire que tu es à court d'argent quand même. À court de monnaie peut-être.
Voilà, à court de petite monnaie. À court de petite monnaie. Non, mais j'avoue que ça va haut. Sur le plan truc, ça va. Bon, ben voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Hein. À part que si tu me trouves dans la rue ou quoi, c'est pas souci, je suis jamais armé.
Donc tu flingues pas, puis.
Je ne suis jamais armé.
Donc si on te trouve, tu nous flingues pas.
Alors là, tu peux. Non, mais.
Sérieux,
non, mais si vous me trouvez, c'est que vraiment. Bon, d'une part, vous êtes fort, bon, je le sais, mais bon, si vous me trouvez, Je pense que vous ferez les choses d'une telle façon que j'aurai pas beaucoup de chance et bon, je chercherai même pas à la trouver, tu vois.
Moi, je vais te dire, si je te trouve pas, je démissionne. T'apprends que j'ai démissionné dans la presse, passe-moi un coup de fil, tu sauras que tu y es pour quelque chose.
C'est une vraie archive que vous connaissez,
oh,
Philippe Jaénadas.
Ça me touche.
C'est l'entretien téléphonique entre le commissaire de police Georges Moréas et Bruno Soulac, alors en cavale. Ça a été diffusé après sa mort sur France Inter en 88.
Ouais, j'en profite pour saluer Georges Moréas, qui écoute peut-être, qui est un bon gars vraiment, et qui disait toujours, et Soulac disait un peu la même chose, ils auraient pu intervertir, c'est-à-dire que Moréas aurait pu être le gangster et Soulac le flic. Et c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que...
Comme dans les Melville.
Comme dans les Melville, et Bruno Soulac aurait pu faire mille choses autres que gangster. D'ailleurs, il disait, je voulais être à la marge, j'aurais dû faire écrivain, c'est plus paisible. Il avait raison. Et
dites pour les auditeurs tout de même à quel âge il est mort et comment.
Alors, Bruno Soulac est mort en 1985 à 29 ans, en essayant de s'échapper d'une prison dont personne ne s'est jamais échappé, qui est la prison de Fleury-Mérogis. Il s'était déjà échappé, évadé 3 ou 4 fois. Moréas, quand Moréas attrapait Soulac et lui disait « Maintenant, je te tiens », Soulac lui disait « Tu me tiens, mais tu vas voir, rendez-vous, je t'appelle dans un mois quand je serai sorti, quand je me serai sauvé. » Et c'est effectivement ce qui se passait. Et la dernière fois qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont mis donc à Fleury-Mérogis, qui est une prison extrêmement sévère et blindée. Ils le changeaient de cellule tous les 15 jours, c'était absolument impossible de s'évader. Tous les gardiens de prison avaient la photo de Soulac pour bien le repérer. Et il a trouvé un moyen assez astucieux, c'est-à-dire qu'il est devenu ami avec le directeur de la prison, le directeur adjoint. Et le directeur adjoint de la prison, qui a été ébloui, hypnotisé par le charme ahurissant de Soulac, lui a fait un plan en lui donnant les clés pour qu'il puisse s'évader. Et puis malheureusement, il y a eu, comme souvent dans la vie de Bruno Soulac, un tout petit hasard, un tout petit truc décalé, qui a fait que ça a mal tourné et qu'il est mort en essayant de se sauver.
Dans vos livres, vous entremêlez les faits, les temporalités, vous faites se croiser les fantômes des personnages sur lesquels vous avez enquêté. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en leur consacrant autant de temps? Est-ce que pour les morts, vous souhaitez les faire revivre, leur rendre hommage, pour les vivants faire justice?
Ben je ne sais pas en fait. Alors les vivants, il n'y en a pas beaucoup dans mes livres. J'ai écrit un livre
sur... Ah si, il y en a un qui est toujours en prison.
Un monsieur qui s'appelle Alain Lapri, qui est toujours incarcéré alors qu'il est aussi innocent que ma mère et ma mère. Et mais c'est une exception, c'est pas vraiment un roman, c'est juste un livre. C'est un monsieur qui est venu me voir, j'étais dans une librairie, je faisais une signature, et il est venu me voir, il m'a dit j'ai été condamné à 15 ans de prison pour avoir tué ma tante, on va m'enfermer la semaine prochaine, je suis innocent, aidez-moi. Et donc je suis resté en contact avec sa femme qui m'a permis de lire le dossier d'instruction, j'ai été sidéré par ce que j'ai lu, et donc j'ai voulu écrire un truc juste pour qu'on en parle dans les médias, c'est pas pour faire un livre intéressant, ou voilà, c'était juste pour qu'il y ait un écho dans les médias, ce qui s'est produit, mais la justice est extrêmement lente, donc il est toujours incarcéré. Et sinon, pour revenir à votre question, je ne sais pas pourquoi j'écris un livre sur Kaki, sur Pauline Dubuisson, où j'imagine pas qu'elles sont assises sur un petit nuage, en regardant vers le bas et en disant « Merci Philippe, c'est gentil, tu nous as rendu hommage ». Donc je sais pas, mais c'est comme quand... vous entendez une histoire ou qu'il vous arrive quelque chose et que vous avez envie de... Vous lisez un bon livre et que vous dites à vos amis « Il faut que tu le lises, c'est bien ». C'est pareil, moi, quand je découvre le destin, la vie de certaines personnes qui ont été très injustement traitées par la société ou par la justice, ben, j'ai envie de... Ce sont souvent des gens qu'on a oubliés. J'ai envie de faire partager ça pour qu'on pense à elles ou à eux. Mais j'ai bien conscience que ça ne sert pas à grand-chose.
Tu veux que je te dise? Tu crèves de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires palopes, hein. T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça.
Puis cette nuit, c'est comme si j'étais déjà mort, 50 fois, moi. Ça se passe là-dedans, mais tu comprends, je me vois éclater, déchiqueté, éparpillé par tout... Ah non, non. C'est pas être une lope que d'avoir quelque chose dans le citron.
Tu devrais l'avoir où je pense, crois-moi.
Cause toujours, on en reparlera quand tu les auras accrochés aux branches, comme une paire de cerises.
Le pognon, faudra le gagner, faudrait jouer avec les pédales. C'est pour ça que t'es payé.
Tu crois que t'es payé pour conduire un camion? Pauvre bon, t'es payé pour avoir peur. T'as pas compris, c'est ça la division du travail. Toi, tu conduis, puis moi, je crève de peur. Crois-moi, t'as la meilleure place.
Il y a un autre type dont vous vous étiez persuadé de l'innocence, Philippe Jaénada, c'est Henri Girard, et vous en parliez dans votre ouvrage La Serpe. Il était accusé d'avoir massacré son père, sa tante et la bonne à coups de serpe dans le château familial dans le Périgord. Il est acquitté, il deviendra écrivain sous le pseudonyme de Georges Arnaud. C'est l'auteur du Salaire de la peur en 49, adapté en 53 par Clouzot. Là, on entendait un extrait avec Yves Montand et Charles Vanel. Vous avez vu ce Sorcereur de Friedkin?
Oui, j'ai vu. Vous travaillez beaucoup apparemment.
Non, c'est pas ça, c'est que j'adore Friedkin.
Mais, oui, mais pour moi, je vois que vous travaillez beaucoup.
Oui, j'ai beaucoup travaillé
pour vous. Vous savez que je suis turfiste, par exemple, mais moi, je travaille aussi. Donc oui, bien sûr, j'ai vu le film de Friedkin.
Et vous avez bien aimé, parce que moi, je trouve l'adaptation formidable, et c'est le film le plus nihiliste que j'ai vu de ma vie.
Oui, moi, j'ai aimé, et d'autant que je hais Henri-Georges Clouzot.
Ah bon ?
Oui, je pense que c'est un grand cinéaste,
ah oui,
mais humainement...
Ah oui.
Si j'avais un marteau, je l'enfoncerais dans le sol. Je déteste cet homme.
Et vous nous priveriez de chef-d'œuvre.
Oui, eh ben oui, je sais, mais c'est un vaste débat, Eva. Là,
bah bien sûr, on entre dans le débat de l'air du temps.
Ouais. Bon. Mais, et du coup, oui, j'ai préféré Sorcerer, mais je trouve que tous les défauts du Salaire de la peur dans Georges Clouzot sont des qualités dans le film de Friedkin, et inversement. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un mélange des deux, ça ferait un film formidable.
Bah, peut-être qu'on va le faire.
Par exemple, dans le film de Clouzot, dans le livre... Moi, j'avais jamais lu le livre, Le Salaire de la peur. J'avais vu le film, que j'avais trouvé magnifique, etc. Et puis, pour écrire mon livre, j'ai lu Le Salaire de la peur, qui est une merveille absolue. Et quand on le compare au film, le film est une honte. C'est-à-dire que dans le livre, les femmes sont fortes, dirigent les hommes. Dans le film, elles sont à quatre pattes, ce sont des putes.
Ah oui, c'est horrible.
On leur caresse
le film,
la tête pour les... Voilà. Et ça, ça vient de Clouzot.
Oui, bah écoutez, oui, si on repense à toute sa filmographie, oui.
Exactement. Donc voilà, il faudrait mélanger Friedkin et... Et il y a eu assez récemment une troisième adaptation, je crois, que j'ai pas vue.
Ah, alors ça, je suis pas au courant.
Ouais.
Dans l'ordre, pour écrire vos livres, vous êtes d'abord enquêteur-archiviste, puis romancier. Et ce qui est amusant, c'est que vous dites que vous rédigez tout comme si vous l'aviez inventé.
Oui, c'est ce que j'essaye de faire. En fait... J'aime les deux. Maintenant, je me dis, j'écris. Parfois, pendant 20 ans, je me suis dit, pourquoi j'écris? Maintenant, je sais que c'est par plaisir pour moi. Le travail de recherche, qui me prend un an et demi, deux ans, de documentation, si j'étais historien, journaliste, je ne sais quoi, ça serait exactement le même travail. J'oublie que je suis romancier, je cherche juste à trouver le plus de documentation possible, quel que soit le temps que ça me prend. Et une fois que j'ai tout... et que je suis bien rassasié de ces recherches qui me passionnent, j'organise tout, j'en fais un fichier, etc., comme une sorte de truc de base, comme une matière première. À partir de là, j'arrête, je ne cherche plus du tout, j'écris le livre, et je fais exactement comme si, alors moi je sais que je serais bien incapable d'inventer ça, mais comme si, disons, j'avais un co-scénariste qui avait tout inventé. Je me dis, je pense souvent, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne suis pas fan de ce genre de film spécialement, mais à la guerre des... Star Wars, le vieux schnock, la guerre des étoiles, au secours. George Lucas, il invente tout un monde avec des personnages, des trucs, qui se crée une sorte de fichier pareil, et une fois qu'il a tout, il dit, maintenant, je sais tout, je vais faire le film. Moi, ça me fait pareil, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon truc de base, que ce soit inventé ou que ce soit tiré d'archives et de faits réels, etc., ça revient exactement au même. Je prends souvent l'exemple d'un peintre. Je suis peintre. Là, si j'étais peintre, moi, je peindrais votre tête plutôt que d'inventer une tête. Mais le type qui peint la tête de sa boulangère ou de sa grand-mère et le type qui invente une tête, ça revient exactement au même. Et puis, surtout, des années ou des siècles après, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est un travail qui est très divisé, ce qui permet d'éviter de m'ennuyer. Et puis, entre les deux, il y a surtout cette période que peut-être qui est la plus courte, mais qui est celle qui m'amuse et m'intéresse le plus, c'est, une fois que j'ai ma matière première, comment je vais raconter ça, sous quelle forme de narration, de construction, etc. Et il faudrait un jour faire l'expérience de donner la même matière première à 5 bons auteurs ou autrices. Il y aurait 5 livres absolument différents, il y en aurait 220 pages et d'autres 2000 pages, il y aurait qui commencent par le début, d'autres la fin. Bref, c'est une période courte, mais qui est pour moi, qui fait partie vraiment intégrante de mon vrai travail d'écrivain.
En parlant de différence aussi entre la fiction et ce à quoi vous vous intéressez, Philippe Jaénada, ce sont des personnages réels, et vous vous attachez à eux, vous l'avez dit tout à l'heure. Par exemple, la petite femelle, c'est sur l'affaire Pauline Dubuisson, et vous dites que cette femme vous a tellement bouleversé qu'elle vous a changé.
Oh oui, mais c'est exactement... alors, je suis sain d'esprit, hein, je suis pas fou, mais c'est exactement comme quand on rencontre quelqu'un. C'est-à-dire que si on avait, si on pouvait faire des études de cerveau, le nombre de gens qui vous ont changé, vous, Eva, ou qui m'ont changé, moi, parce que je les ai rencontrés, parfois peut-être juste une soirée, une phrase ou deux qu'on entend, et puis parfois des amis ou des amoureux, des amoureuses, des gens proches. Et moi, ça me fait pareil, c'est-à-dire que je, quand par exemple je travaille sur Pauline Dubuisson, ça fait un peu moche à dire, mais voilà, j'y passe 2 ou 3 ans, 7 jours sur 7, à temps plein, jour et nuit parfois. Donc je pense que je connais mieux, enfin, de ce qu'on peut en savoir 70 ans plus tard, hein, Pauline Dubuisson, que des amis proches, ou ma mère même. Donc évidemment, les parcours de vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, la manière dont elles ont réagi, ben ça change, oui, ça me change. C'est normal, c'est toutes les rencontres qu'on fait, qu'elles soient concrètes ou presque virtuelles ou décalées dans le temps, c'est fait pour ça, c'est comme les livres qu'on lit, ça nous modifie.
Il y a quelque chose qui semble assez paradoxal, c'est que vous écrivez aussi pour les faits divers pour la revue Zadig.
Oui.
Vous avez consacré beaucoup de romans à des faits divers, mais vous dites n'être absolument pas fasciné par la violence, le sang et les meurtres, contrairement à ce que tous les journalistes pensent.
Oui, on me demande souvent, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est, d'où vient cette fascination pour le crime? Pas du tout, du tout, au contraire.
Il n'y a aucune curiosité morbide qu'on ait beaucoup à partager?
Non, enfin oui, si, comme tout le monde, je regarde à la télé les émissions de crimes et de choses comme ça, mais... La seule chose qui m'intéresse pas dans tout ça, c'est le fait divers en lui-même, c'est-à-dire le fait divers, on disait tout à l'heure, on parlait de l'humanité, un fait divers, c'est 10 secondes ou 3 minutes de haine, de bêtise, de rage, de violence, qui est le contraire de ce qu'on cherche chez les êtres humains, mais en revanche, c'est tout ce que ça déclenche, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, sur les côtés... qui révèle, et puis il y a quelque chose de tout simple, hein, de manière très prosaïque, c'est que quand il y a eu un fait divers, quand il y a eu un crime, il y a eu une enquête, il y a eu un procès, et donc il y a des dossiers. Et Pauline Dubuisson, le fait qu'elle ait tiré sur son ancien amoureux parce qu'il voulait la quitter, ça, c'est 5 secondes de sa vie, mais il y a 5000 pages d'études de la vie de Pauline Dubuisson grâce à ça. Si j'avais voulu peut-être que la voisine ou la cousine de Pauline Dubuisson était une fille formidable et très intéressante, mais je n'aurais aucun moyen de le savoir si longtemps après.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Le café de la jeunesse perdue, quel titre du roman? Oui, je me suis inspiré. C'est un peu un amalgame de divers cafés qui n'existe plus aujourd'hui, dont on peut mal imaginer d'ailleurs l'emplacement, qui était dans une zone un peu périphérique de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire plus vers l'Odéon, c'est-à-dire c'était une zone qui était très étrange quand j'étais enfant. Maintenant, on ne peut plus du tout se rendre compte parce qu'il y a des magasins de luxe et tout ça. Et donc, c'est un des cafés... qui était rue, on peut dire, un des cafés qui était rue du Four, il y avait des cafés très bizarres, et aussi j'ai fait un amalgame avec un autre café très étrange aussi, qui est un peu plus haut, mais je n'ai pas du tout eu envie de reconstituer, comme c'est un monde qui a complètement disparu, c'est devenu complètement imaginaire ces cafés maintenant. Mais quand même, je me suis axé sur des souvenirs d'enfance qui m'ont beaucoup imprégné.
C'est Patrick Modiano qu'on entend en 2007. Philippe Jaénada, l'écrivain, a concrétisé l'une de vos principales obsessions ou passions mélancoliques, c'est le passage du temps. Et alors, dans une interview de 2021, vous disiez, je crois que c'est le seul écrivain que je n'ai jamais ne serait-ce que croisé, et que ça vous allait parce que vous vouliez bien qu'il reste un fantôme comme dans ses livres. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, c'est toujours le cas. Oui, c'est un... Les écrivains, je sais pas si c'est une bonne idée de les rencontrer. Bon, vous devez en voir pas mal, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un évidemment que j'aime de tout mon cœur, sans l'avoir jamais vu. Mais non, que j'ai pas eu envie de rencontrer. Il y a une possibilité il y a 3-4 ans, et c'est à la fois, c'est comme je suis pas sûr que j'aurais envie de croiser Bukowski par exemple, ou Mozart, ou je sais pas. C'est très bien comme lui est très insaisissable, alors que plein de gens me disent, tu sais pas qui j'ai croisé dans la rue? Modiano. Parce qu'il marche beaucoup, il se balade et tout ça. Mais nos chemins se sont jamais croisés et c'est très bien comme ça.
En tout cas, vous vous êtes intéressé au même café, le café Moineau de la rue du Four, que Guy Debord a fréquenté pendant 18 mois, et justement, il est là.
J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe. Et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi dans la plus mal famée des compagnies. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais?
Ingirumimus nocte et consumimur igni, palindrome en latin, repris par Guy Debord pour le titre de son film sorti en 81 et dans lequel il parle des personnages qui vous intéressent. Philippe Jaénada, dans La Désinvolture, est une bien belle chose. Vous lui empruntez le titre, vous lui empruntez au manifeste de l'International Lettriste. Donc c'est pas Isidore Isou qui a rédigé le manifeste?
Non, Isidore Isou, c'était les lettristes. Isidore Isou était le dieu de Debord. D'ailleurs, Debord disait Isou est un dieu quand il avait 18 ans, et quand il avait 19 ans et demi, Debord le méprisait, le détestait.
C'est quand on fréquente les gens, bah oui.
Oui. Et puis Debord, c'était une coutume. Et donc il a créé l'International Lettriste pour écrabouiller le lettrisme. Et il a rédigé un petit manifeste très court, qui fait même pas une page, avec une succession de phrases très potaches, comme les choses que les étudiants écrivent sur leurs jeans, où nous haïssons la société, nous refusons la discussion. Et parmi toutes ces phrases, il y en a une qui me plaisait bien, qui est « La désinvolture est une bien belle chose, point ». Et la phrase qui était juste après, c'est « Mais nos désirs étaient périssables et décevants ». Je trouvais que comme titre, « La désinvolture est une bien belle chose, mais nos désirs étaient périssables et décevants », c'est un peu difficile à demander à son libraire.
Et au lecteur aussi.
Et puis surtout, dans la première partie de la phrase, il y a le « mais », on entend, enfin j'espère qu'on entend le « mais », comme quand on dit « la radio c'est bien beau, mais on voit pas les gens ». C'est pas plus mal comme ça, mais enfin on sent le « mais » qui est sous-entendu.
Vous dépeignez en tout cas un Debord assez cruel. Moi, ça m'a fait penser à Breton qui se brouillait avec tout le monde.
Exactement.
Et qui virait tout le monde de son mouvement. Ce que vous préférez chez lui, c'est son côté poivreau mélancolique. Et il y a un autre homme qui compte beaucoup. C'est un homme avec lequel vous échangez, romancier, essayiste, professeur de littérature et théâtre à l'université de Stanford en Californie, spécialiste entre autres de Guy Debord et de Tintin, Jean-Marie Apostolides.
Oh oui, c'est quelqu'un que... Un peu comme Modiano, que j'ai jamais rencontré, mais en revanche, on s'est beaucoup écrit. Il m'a incroyablement aidé, c'est-à-dire que lui, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il fait des recherches là-dessus, moi je débarque, et il m'a donné avec une gentillesse, une sincérité, un enthousiasme, tout plein de choses, tout ce que je lui ai demandé, des choses que je n'aurais jamais pu trouver, qui se trouvent dans des archives à Montréal, par exemple. Enfin, vraiment, ça a été très très précieux. Et on s'est beaucoup écrit, il y a une sorte d'amitié, je peux dire ça, d'amitié épistolaire, comme ça, enfin par mail, qui est apparue. Il devait venir à Paris, il me répétait sans arrêt qu'il lui tardait, qu'il avait hâte de lire le livre et qu'on boive un coup tous les deux et qu'on se serre la main. Et puis il est décédé pendant l'écriture du livre, de manière extrêmement soudaine et imprévisible. Donc ça a été un choc. Et la première phrase, la phrase en exergue du livre, c'est une phrase de lui dans un de ses livres qui s'appelle L'Audience et qui m'a semblé représenter exactement non seulement cette histoire, mais moi, mon rapport avec le passé et avec les gens dont je parle, qui est « Toutes les existences sont liées les unes aux autres ».
Solidaires les unes des autres.
Solidaires, exactement.
« Nader ik het eind van mijn leven, en daartussenin zijn dus tientallen films gemaakt, tientallen fotoboeken.
On sait juste pour entendre sa voix, c'est l'extrait du film Bail du photographe hollandais Ed van der Elsken qui a immortalisé la bande des moineaux à laquelle vous vous intéressez, Philippe Jaénada, dans votre livre. Et le livre qui vous a inspiré notamment, c'est un livre de 56, Love on the Left Bank, dont les photos au style inédit à l'époque, que vous qualifiez d'ailleurs de nouvelle vague photographique, ont influencé notamment Larry Clark ou Nan Goldin. Et vous avez découvert ces photos grâce à Debord. Encore lui, et suicidé aussi, tout se recoupe. Et là, je vous laisse nous parler enfin de Kaki.
En fait, dans mon livre précédent, qui s'appelait « Au printemps des monstres », parmi toutes les recherches que je faisais dans cette période de documentation, là, je fais, après, on me reproche parfois un peu où il y a des gens qui aiment mes digressions, mes trucs. Donc, je cherche à côté, avant et après, toujours ce qui se passe autour des personnages dont je veux parler. Et complètement par hasard, je tombe sur l'histoire de cette jeune femme, donc, Kaki, la reine du quartier à Saint-Germain-des-Prés, la plus belle, la plus gentille, la plus libre, la plus légère, celle qui, avec qui tous les garçons veulent coucher et qui couche avec tous les garçons, qui tombe folle amoureuse du plus beau soldat américain de Paris, et il est amoureux d'elle, et qui se jette par la fenêtre à 20 ans dans la stupeur générale. Et Patrick Modiano était d'ailleurs, enfin, d'après ce qu'il dit, il faut se méfier avec ce zigoto, mais Patrick Modiano était à 8 ans, sa babysitter l'avait emmené dans le café quand on a annoncé la mort de Kaki. Et bref, une fois que j'ai terminé toute l'écriture de mon livre d'avant, les médias, la tournée, c'est un mot moche, mais bon, je ne sais, j'ai plus rien à faire, je me dis je vais me renseigner sur elle, mais sans me dire, je me suis pas dit je vais écrire un livre sur une belle jeune femme qui s'est jetée par la fenêtre et on sait pas pourquoi. Et en fait, en me renseignant sur elle, je découvre qu'il y a une photo d'elle dans un livre de photos de celui dont vous venez de parler, donc Love on the Left Bank. Je trouve un exemplaire d'occasion. Il a été publié en 56. Et si je le trouve, c'est parce que Debord, donc, était dans ce café et que les admirateurs, les adeptes, les disciples de Debord ont permis d'entretenir le lien jusqu'à aujourd'hui avec ces photos. Et en fait, c'est quand j'ai ouvert ce livre, où il y a 200 photos, presque toutes prises dans ce bistrot chez Moineau, 200 photos magnifiques, de garçons et de filles magnifiques, plastiquement pour certains, mais surtout dans leur regard, leurs attitudes. On ne sait pas s'ils sont joyeux, s'ils sont tristes, s'ils sont perdus, s'ils sont juste insouciants, comme tous les jeunes. Ils sont très jeunes, ils ont entre 16 et 18 ans. Et c'est au moment où je découvre ces photos que je me dis bah, je vais essayer de savoir qui c'étaient tous ces jeunes gens, avec Kaki au milieu, et peut-être que ça pourra faire un livre.
J'aimerais bien vous interroger sur votre rapport à la vérité, parce qu'il y a une chose amusante, enfin amusante, je ne sais pas si c'est le mot, c'est qu'à un moment vous comparez justement la narration de ce fait divers, le suicide de Kaki, par plusieurs journaux. Ce n'est pas les mêmes détails, ce n'est pas les mêmes versions, il y a des erreurs, mais en fait, on ne sait jamais vraiment ce qu'est la vérité. Et vous, la vérité se modifie au fur et à mesure de votre enquête, c'est-à-dire même l'orthographe des noms dont vous parlez se modifie au cours du livre. Les étages, au début c'est le cinquième étage, puis ça devient le troisième, mais vous apprenez en même temps que le lecteur. La vérité, ça existe ?
Alors non, justement, ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que moi, on peut s'approcher, surtout à 70 ans d'écart, hein, même de manière instantanée, mais on peut s'approcher le plus honnêtement possible et le plus sérieusement possible de ce qui ressemble à la vérité, mais évidemment, après avoir bossé 2 ou 3 ans sur la vie de Kaki, je la connais beaucoup mieux qu'au début, mais j'ai pas du tout la prétention. À la fin de mon livre sur Pauline Dubuisson, La Petite Femelle, j'étais un peu grisé par tout ce que j'avais trouvé, et j'avais vraiment l'impression que c'était comme ma sœur, ma petite sœur, et que je la connaissais mieux que personne, et puis à la fin, je me rends compte que je ne connais même pas le son de sa voix. C'est dire si je la connais peu, je sais pas si elle a une voix criarde, aiguë, lente, grave. Donc voilà, il faut rester humble et se dire qu'on peut approcher, on peut être le plus honnête possible. Mais après, et puis d'ailleurs, on n'est pas obligé, hein, Patrick Modiano, dans son livre « Dans le café de la jeunesse perdue », romance, il le dit, hein, il sait 2-3 choses sur Kaki, il sait qui elle est, puis à partir de là, c'est ce qui fait toute la beauté poétique de ses livres, à partir de là, il la crée, il la recrée de manière très différente de ce qu'elle était en réalité, mais la manière modianesque, qui est au moins aussi belle et poétique que la vérité.
En tout cas, il y a ce style qui vous caractérise, beaucoup de digressions, de parenthèses. Et alors, bon, les parenthèses, on les connaît chez vous, Philippe Jaénada, mais les digressions, comme dans, paraît-il, le seul livre que vous relisez, enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Jacques le Fataliste de Diderot.
Non, c'est vrai, ouais, ben, je ne le relis pas toutes les semaines. Hein, mais en général, je ne relis pas les livres parce que je me dis, chaque livre que je relis, c'est un livre que je ne lirai pas au moment où je vais mourir. Mais celui-là, je le relis d'abord par plaisir, ensuite parce que ça me fait rire, que c'est d'une grande intelligence, et puis surtout, ça me rassure quand il y a, alors maintenant de moins en moins, mais on m'a tellement dit, vous partez dans tous les sens, tenez un peu votre récit, je ne savais plus où j'étais en vous lisant, etc. Jacques le Fataliste, c'est le principe même de la digression agaçante. En plus, c'est l'histoire de, il veut raconter qu'il a enlevé la jarretière d'une fille dans une auberge, donc qui n'est pas très intéressant. et il n'arrête pas de retarder. Et c'est un livre d'une modernité. À un moment, on croit que ça y est, on y arrive, on va enfin savoir. Et Diderot dit « Pardon, je souffle ma bougie, je suis fatigué, je vais me coucher ». Enfin, c'est d'une modernité incroyable, quoi. Et donc, il va se coucher, et puis quand il se réveille le lendemain matin, il repart sur une autre histoire. C'est un livre qui n'est construit que là-dessus, et qui est quelque chose qui me réconforte et me met en joie.
Et alors, je me demande si le choix musical que vous avez fait pour ce soir vous met en joie aussi. C'est « Flowers » de Miley Cyrus. Pourquoi ?
Alors déjà, ma femme est furax. Catherine m'a dit, mais qu'est-ce que tu as été choisir ? Pourquoi tu as
choisi ? Mais on va parler d'elle dans un instant, si on a le temps.
D'elle, ouais. C'est un peu plouc, j'ai choisi ça parce que d'abord ça me fait gigoter, et puis parce que I can buy myself flowers, c'est une partie de la désinvolture. Moi je suis en ce moment très préoccupé par cette histoire de désinvolture, j'essaye de tendre vers la désinvolture.
Vous l'êtes ou pas du tout ?
Oui, si, de plus en plus je progresse. Il me reste encore à peu près 20 ans de travail et d'études, mais j'espère y arriver avant la fin. L'histoire de la chanson, c'est qu'elle n'a pas besoin de son mec, elle peut s'acheter des fleurs toute seule, elle peut aller danser, elle peut se tenir une main avec l'autre. Et la désinvolture, si on a deux minutes, étymologique. Moi, je me suis rendu compte que la désinvolture a un sens péjoratif pour certaines personnes.
Oui.
Genre laxisme, je m'en foutis.
Oui, l'indifférence. Tout ça.
Ouais. Étymologiquement, ça vient du latin désinvolto, et involto en latin ça veut dire envelopper. Les involtini, vous voyez les involtini, du fromage avec du jambon autour.
Mais dès que vous me parlez de fromage, je vois ce que c'est.
Et du jambon autour. Ligoter, ficeler, donc désinvolto, c'est ce qui n'est pas ligoté, ce qui n'est pas enveloppé, ce qui est libre de liens, de contraintes, de choses comme ça. Et Miley Cyrus, enfin c'est une chanson, mais elle a l'air d'avoir trouvé, parce que l'amoureux est un lien, une attache.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Cyrus Flowers dans la 20e heure sur France Inter, c'est votre choix Philippe Jaénada, tout comme un peu de pub conjugale, là je vous cite, je vais prendre un dessin d'Anne-Catherine, ça s'appelle Au Cirque. Anne-Catherine et votre compagne, vos lecteurs le savent bien.
Mon étincelante épouse.
Oui.
Elle dessine, je suis content parce que maintenant elle passe beaucoup de temps à dessiner, elle fait des choses très belles. Et il y a un de ces dessins, mais là, à la radio, on voit mal hein, les dessins, mais...
Si on se penche vraiment très fort, on peut voir un peu.
Si on ferme les yeux et on se concentre.
Ouais.
Il y a un très beau dessin d'une femme habillée en rouge, ça s'appelle Le Cirque, je crois, qui lance les bras en l'air et qui, pareil, que j'ai choisi parmi tout ce qu'elle fait, parce que ça évoque pour moi la désinvolture. Cette femme n'est pas attachée, elle est libre, elle danse et elle sautille.
Alors, il y a un passage dans La désinvolture est une bien belle chose où vous racontez votre rencontre avec elle et la première fois où vous l'emmenez chez vos parents. Est-ce que vous pourriez nous lire cet extrait ? Je le trouve très drôle.
Si on a le temps.
Oui, on prend le risque.
J'avais rencontré Anne-Catherine quelques semaines plus tôt. Je l'ai emmenée dîner chez mes parents en banlieue pour la première fois. La soirée s'est passée bizarrement. Elle ne portait qu'une tenue dorée d'acrobate, genre body ouvert jusqu'au nombril avec mini-short. À peine arrivée, elle s'est roulée dans l'herbe du jardin en poussant des cris. Elle avait trop fumé, les psychotropes qu'elle prenait à l'époque étaient manifestement mal dosés, et le trac la faisait dérailler. Elle, qui est si polie, disait « putain de merde » et « enculé » à table. Mes parents me regardaient avec de grands yeux à la fois effarés et indulgents. C'était la première fois que je leur présentais une amoureuse. J'avais 34 ans, pourtant je n'étais pas spécialement en avance. J'avais vécu jusqu'alors une vie de papillon patachon. Il devait se dire que j'avais cherché 15 ans pour finalement m'arrêter sur un choix peu logique. Elle a vomi le légendaire gâteau au chocolat de ma mère, et au moment du café, elle a déclaré « Au fait, je ne sais pas si Philippe vous a dit, mais je pars avec lui à Veules-les-Roses. J'ai souri, bonhomme. Non, ne vous inquiétez pas, Anne-Catherine blague. Mais non. Nous avions passé une bonne partie de la nuit précédente au Saxo-Bar. Vous m'interrompez quand vous voulez, Eva.
Hein? Non, mais je veux jamais.
Donc je m'aperçois aujourd'hui que c'était la réplique presque exacte de chez Moineau. Du moins de l'image que je peux m'en faire d'après les photos. J'avais picolé comme un abruti, et dans l'euphorie sentimentalo-éthylique, je ne m'en souvenais pas, mais elle l'affirmait, je lui avais proposé de m'accompagner à Veules. Je t'aime, rien n'est plus fort et plus beau que l'amour, la passion renverse tout, les conventions, la prudence, la raison, oublions tout ça, viens avec moi. Malheur. Anne-Catherine n'est pas menteuse, jamais, je l'avais déjà compris, et j'ai un problème avec la parole donnée, même la parole d'ivrogne. Ça me ligote. J'avais donc dû accepter qu'elle s'installe avec moi dans la maison de l'écriture, la mort dans l'âme. Je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Dès le premier jour, le lendemain de notre arrivée, c'est mon père qui nous avait conduits là en voiture, nous nous étions tous les deux rasés entièrement le crâne, sans vraiment savoir pourquoi, comme instinctivement, peut-être pour repartir de zéro, commencer notre vie.
Merci beaucoup. Ça pourrait être une nouvelle
c'est
de Bukowski.
C'est du vécu, hein.
Bah oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le temps, parce qu'il y a tellement de références, Philippe Jaénada, dans votre livre, que j'aimerais qu'on communique aux auditeurs. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur une référence qui a l'air absolument truculente? C'est le livre de Jean-Paul Kléber, Paris insolite, que vous qualifiez de genre de guide du clochard, mais plein de panache et de noblesse.
Oh, c'est formidable. C'est un type qui était... à 20 ans, clochard à Paris, à l'époque où on pouvait être clochard à Paris et trouver quand même à manger dans les bars et les restaurants, etc. Et qui donc a écrit ça, c'est d'une grande poésie, ça fait beaucoup penser à Bukowski, hein, justement, par exemple. C'est un livre formidable que j'ai lu par hasard parce que je savais qu'il parlait d'un des personnages des Moineaux. Et donc que j'ai lu comme ça pendant que je me renseignais et qui m'a... c'est un Paris qui n'existe plus du tout. Je me demandais d'ailleurs où vont, ne serait-ce que pour les jeunes, par exemple. Les jeunes fugueurs, à l'époque, en 53, ils allaient à Saint-Germain. Dans les années 80, ils allaient au Halles. Maintenant, quand on est jeune, paumé, fugueur, à Paris, il n'y a plus de quartier. J'ai cherché, j'ai demandé à tous les amis de mon fils, je n'ai pas trouvé. Et donc voilà, Paris insolite de Kléber, c'est vraiment... enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a... et qui serait bon de lire, je pense, pour se souvenir d'une époque qui reviendra ailleurs.
Et une dernière recommandation de lecture dans les dernières secondes de l'émission. Vous relisez tous les Maigret en ce moment.
Oui.
Vous en avez un ou deux à conseiller?
Oh là, presque tous. Il y en a 75, on peut prendre n'importe lequel. Et je les relis pas pour rien. Je les relis pour une raison secrète.
D'accord. Bon, bah on attend alors.
Ouais, dans deux ans.
D'accord. Et un titre de livre à recommander, n'importe lequel?
Non.
Ok. C'est la meilleure des réponses. Merci beaucoup, Philippe Jaénada.
Merci Eva.
La désinvolture est une bien belle chose et parue le 21 août aux éditions Mialet Barreau. Vous serez à la Maison de la Poésie à Paris demain à 19h, mais c'est complet, m'avez-vous dit. Donc c'est un peu sadique de le dire quand même, mais vous m'avez dit que je pouvais le dire. Un dossier vous est consacré dans le numéro 59 de la revue littéraire La Femelle du Requin, paru cet été. Et d'ailleurs, l'équipe de La Femelle du Requin sera là demain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Daniche et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Clément Vuillet. À demain, 20h10.